Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. L'actualité, le gaboteur. Au programme, douleur articulaire. Est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite? Un grand adieu au Big Land. Et pour la santé du cœur, faut-il se passer d'édulcorants? Bonne écoute.
Douleur articulaire. Est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite? Un texte de Kathleen Couillard, paru le 11 avril 2023 dans l'actualité. Douleur, raideur et diminution de la mobilité. Les symptômes de l'arthrose ressemblent à ceux de plusieurs autres maladies arthritiques. Comment peut-on les distinguer? L'arthrose a beau toucher 3,9 millions de Canadiens et être responsable de bien des douleurs aux genoux et aux hanches, ceux qui ont mal la confondent encore souvent avec d'autres problèmes articulaires. Cette maladie chronique s'installe progressivement. Les symptômes se manifestent d'abord à l'occasion, puis, si rien n'est fait, ils peuvent être de plus en plus fréquents et perturber le fonctionnement quotidien des personnes qui en souffrent. Qu'est-ce que l'arthrose? L'arthrose est la destruction progressive du cartilage qui se trouve à l'intérieur d'une articulation, entre les os. Le cartilage est une membrane élastique qui sert à protéger les extrémités osseuses et à lubrifier l'articulation, précise Benjamin Rondeau, physiothérapeute à la clinique du pavillon de l'éducation physique et des sports, PEPS, de l'Université Laval. Le cartilage peut s'user avec le temps, mais l'arthrose dépasse l'usure normale. Bien des gens vieillissent d'ailleurs sans connaître de symptômes d'arthrose. La maladie apparaît quand le corps n'arrive plus à réparer les dommages qui se produisent inévitablement aux articulations, soit parce que le corps ne suit plus le rythme, soit parce que la quantité de tissu à réparer est trop grande. Dans la plupart des cas, ce type de dommage survient lorsque les articulations sont soumises à des charges lourdes pendant une longue période, explique la Société de l'arthrite du Canada. L'arthrose peut aussi apparaître à la suite d'une blessure, par exemple une petite déchirure du ménisque du genou, un morceau de cartilage en forme de croissant qui permet au genou de bien plier, peut créer de l'inflammation et déclencher ensuite la dégénérescence du cartilage, illustre la docteure Véronique Godbout, chirurgienne orthopédique et présidente de l'Association d'orthopédie du Québec. Encore une fois, si le corps n'est plus en mesure de le réparer, l'arthrose s'installe. Cette dernière peut toucher n'importe quelle articulation. Cependant, les genoux, les hanches, les gros orteils, les mains et la colonne vertébrale sont plus souvent atteints. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, en 2016-2017, plus de 80 % des patients qui ont subi une opération de remplacement de la hanche souffraient d'arthrose. Pour les remplacements du genou, c'est 98 %. Qu'est-ce que l'arthrite? Les mots « arthrose » et « arthrite » sont parfois utilisés de façon interchangeable. « Arthrite » est en fait un terme très général qui désigne toutes les formes d'inflammation des articulations, remarque la docteure Godbout. Cela inclut donc l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et plusieurs autres types d'arthrite. L'arthrite regroupe ainsi plus de 100 maladies caractérisées par l'inflammation des articulations et d'autres parties du corps, selon la Société de l'arthrite du Canada. L'arthrose est toutefois la forme la plus courante. Pour les autres types d'arthrite, il s'agit souvent de maladies auto-immunes, ajoute la docteure Godbout. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, les cellules du système immunitaire attaquent certaines portions de l'articulation, comme la membrane synoviale qui recouvre l'intérieur des articulations. Elle déclenche alors un processus inflammatoire qui dégradera progressivement tous les composants de l'articulation. Les formes d'arthrite inflammatoire se distinguent donc de l'arthrose par le fait que c'est l'inflammation plutôt que l'usure du cartilage qui provoque les problèmes articulaires. Il faut toutefois se rappeler qu'un type d'arthrite n'exclut pas l'autre, souligne la docteure Godbout. Par exemple, une personne peut avoir à la fois de l'arthrose et de l'arthrite rhumatoïde. Vous écoutez Douleur articulaire. Est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite? Un texte de Kathleen Couillard paru le 11 avril 2023 dans l'Actualité. Quelles sont les autres maladies qui peuvent ressembler à l'arthrose? Certains types d'arthrite peuvent présenter des symptômes très semblables à ceux de l'arthrose. C'est notamment le cas de la polyarthrite rhumatoïde et de la goutte. La polyarthrite rhumatoïde touche souvent plusieurs articulations simultanément des deux côtés du corps, explique la docteure Godbout. Elle affecte généralement les petites articulations comme celles des mains, des poignets et des doigts. Au contraire, l'arthrose touche davantage les grosses articulations comme les genoux ou les hanches et habituellement d'un seul côté. La goutte est quant à elle une maladie qui se déclenche lorsque de l'acide urique s'accumule dans le sang. Cette substance provient de la digestion de certains aliments contenant des purines, un composant de l'ADN. On en retrouve dans la viande rouge, les abats, les mollusques, les crustacés, certains poissons et le sirop de maïs. Des cristaux d'acide urique se forment alors dans les articulations et provoquent de l'inflammation, précise la Société de l'arthrite du Canada. À quels symptômes reconnaît-on qu'il s'agit d'arthrose? Selon la docteure Godbout, les symptômes de l'arthrose et des autres formes d'arthrite se ressemblent. Si vous en souffrez, vous ressentez peut-être de la raideur et de la douleur aux articulations, en particulier au réveil. Vous avez peut-être aussi observé un gonflement de vos articulations. C'est le frottement des os dû à la détérioration du cartilage qui cause ces symptômes. Cependant, le niveau d'usure du cartilage ne détermine pas la sévérité de la douleur, précise Benjamin Rondeau. Des gens peuvent avoir beaucoup d'arthrose et peu de douleur, alors que pour d'autres, c'est l'inverse. Le physiothérapeute remarque aussi que les personnes qui souffrent d'arthrose modifient leur façon de bouger pour se protéger de la douleur. Ce comportement peut provoquer une perte de mobilité. Par exemple, une personne avec de l'arthrose au genou aura de plus en plus de difficultés à le plier ou à le déplier. Qui est le plus susceptible de souffrir d'arthrose? Le risque d'arthrose est plus grand chez les personnes plus âgées. On observe que 22% des Canadiens âgés de 60 à 64 ans sont touchés et 52% des 85 à 89 ans. La fréquence est aussi plus élevée chez les femmes et dans les familles où il y a un historique d'arthrose. Le surpoids augmente également le risque puisqu'une pression supplémentaire s'exerce alors sur les articulations. De plus, les tissus graisseux peuvent libérer des substances qui accroissent l'inflammation, souligne la Société de l'arthrite du Canada. Par ailleurs, un faible niveau d'activité physique accentue le risque, puisque cela réduit la force musculaire et la flexibilité. Il y a aussi beaucoup de facteurs biomécaniques, ajoute Benjamin Rondeau. Par exemple, une personne qui a subi une blessure dans le passé est plus susceptible de présenter une usure du cartilage à long terme en raison du changement de pression à l'intérieur de l'articulation. Certains métiers ou certains sports de haut niveau augmentent donc le risque d'arthrose. Comment est-ce diagnostiqué? Il n'existe pas de test de dépistage particulier pour l'arthrose. Le diagnostic est plutôt posé en fonction des symptômes et de l'examen physique de l'articulation touchée. Le physiothérapeute est une bonne ressource de première ligne pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, note Benjamin Rondeau. Il pourra vérifier d'où vient la douleur et s'il y a des choses à corriger dans le quotidien. Cependant, si la douleur est importante et qu'il y a une grande perte de mobilité, une radiographie permettra de connaître la gravité de l'état. Le médecin sera alors la personne à consulter. En effet, la radiographie aide parfois à distinguer l'arthrose des autres types d'arthrite. Par exemple, la présence de certains agrégats au niveau de la membrane synoviale est caractéristique de certains types d'arthrite, explique la docteure Godbout. Au contraire, la présence d'excroissances osseuses appelées ostéophytes est plutôt associée à l'arthrose. Les radiologistes disposent donc de critères pour soupçonner de l'arthrose ou un autre type d'arthrite. Lorsque les signes d'arthrose sont visibles à la radiographie et que des symptômes sont présents, douleur, raideur, inutile de passer une imagerie par résonance magnétique, IRM, pour tirer des conclusions, souligne l'Association canadienne d'orthopédie. Enfin, si le médecin soupçonne la polyarthrite rhumatoïde, des prélèvements sanguins permettent de mesurer la présence dans le sang de certaines molécules caractéristiques de cette maladie. Cette information, combinée aux résultats de l'examen physique et de la radiographie, pourra aider le médecin à établir le bon diagnostic. C'était « Douleur articulaire. Est-ce de l'arthrose ou de l'arthrite ?» un texte de Kathleen Couillard, paru le 11 avril 2023 dans l'actualité.
Un grand adieu au Big Land, un texte de Romain Scheller, paru le 7 janvier 2023, dans Le Gaboteur de Terre-Neuve et Labrador. Je m'appelle Romain Scheller. Je suis originaire du sud-ouest de la France et j'ai vécu à Labrador City durant 6 mois entre les mois de juin et décembre 2022. Je suis venu dans la région de l'ouest du Labrador afin de réaliser une mission de service civique au sein de l'Association francophone du Labrador, AFL. En tant que volontaire au poste de promotion de la participation citoyenne en milieu linguistique minoritaire, mon rôle était de stimuler l'engagement et l'implication de la communauté francophone aux activités de l'AFL et de soutenir les employés dans l'organisation et la planification des événements. Cette expérience professionnelle fut très enrichissante. J'ai acquis de nombreuses compétences dans un cadre de travail accueillant, avec des collègues toujours prêts à m'apporter leur aide et dont certains sont devenus de véritables amis. Premières impressions. À mon arrivée à Labrador City, je fus accueillie chaleureusement par Lise Boucher, une vraie doyenne de la francophonie labradorienne et membre active de l'AFL, ainsi que Buddy, son petit chien pour le moins énergique. J'ai logé chez elle jusqu'au mois d'août, quand j'ai pris mon indépendance et emménagé seule dans un appartement. Je pense que Lise est la personnification de la gentillesse et de la bienveillance canadienne. Elle m'a présenté à de nombreuses personnes et a toujours su me faire sentir chez moi. Elle m'a aussi fait visiter les alentours et raconter l'histoire récente, mais néanmoins passionnante, de la région de l'ouest du Labrador. Plusieurs choses m'ont étonnée, ou devrais-je dire, ont dépassé mes attentes. Premièrement, la diversité des activités que l'on peut trouver. Golf, soccer, salle de sport, volleyball, badminton, yoga, concerts dans les bars, bowling, piscine, il y en a pour tous les goûts. Deuxièmement, j'ai rencontré des personnes venant des quatre coins du monde. Tunisie, Norvège, Sénégal, Cameroun, Philippines, Espagne, Portugal, Pérou, Angleterre, Colombie, Égypte. La population de l'ouest du Labrador est extrêmement diversifiée. J'ai rencontré et échangé avec de nombreux Canadiens et Labradoriens. Les premiers contacts ont toujours été chaleureux et bienveillants. Au cours de mes discussions avec des personnes anglophones, lorsque l'on me demandait d'où je venais, il était toujours drôle de constater la réaction de mes interlocuteurs au moment de ma réponse, entre curiosité, amusement et quasi-incompréhension. Souvent, on me demandait « Are you French from France? » En effet, les gens étaient généralement curieux de savoir ce qui pouvait bien attirer un Français dans le nord du Canada. Pour ma part, ce sont les grands espaces naturels, les forêts à perte de vue, les milliers de lacs, de la neige comme je n'en ai jamais vu. Sur ce dernier point, je n'aurais eu qu'un avant-goût dans la mesure où j'ai quitté le pays au début du mois de décembre. Et je n'ai pas été déçue. Des impressions durables. Bien que je ne sois restée que 6 mois dans la région, j'ai tissé des liens avec plusieurs personnes avec qui j'ai pu échanger sur les points communs et différences entre les cultures françaises et canadiennes. Plusieurs jeunes anglophones, ayant des notions de français, m'ont également parlé en français ou demandé des conseils pour s'améliorer. J'ai trouvé leur démarche extrêmement bienveillante et j'y ai vu preuve d'une grande ouverture d'esprit. À la fin de ce voyage, je ne retire que du positif et j'éprouve une immense gratitude vis-à-vis des gens qui m'ont accueilli et qui m'ont intégré au sein de la région. Je me suis sentie à la maison dès la première seconde. Un chemin vers le Canada pour les jeunes Français. Le service civique est un dispositif mis en place par l'État français. Il s'agit d'un engagement volontaire sur une mission d'intérêt général d'une durée de 6 à 12 mois. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et se déroule au sein de services de l'État, d'établissements publics, de collectivités territoriales, d'associations ou encore de fondations. L'objectif du service civique est de mobiliser les jeunes autour de défis sociaux et environnementaux et de leur proposer un cadre dans lequel ils pourront mûrir, gagner confiance en eux, gagner en compétences, en s'impliquant sur un projet collectif au service de la population et en relation directe avec elle. Il doit permettre de conforter l'apprentissage de la citoyenneté par l'action et de prendre le temps de réfléchir à son propre avenir en tant que citoyen et que professionnel. C'était un grand adieu au Big Land, un texte de Romain Schiller, paru le 7 janvier 2023 dans Le Gaboteur de Terre-Neuve et Labrador.
Pour la santé du cœur, faut-il se passer d'édulcorants? Un texte de Joël Leblanc paru le 11 avril 2023 dans l'actualité. Consommer des édulcorants est associé à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, montre une étude menée sur plus de 100 000 Français suivis pendant 12 ans. Faudrait-il bannir ces succédanées de sucre? Sucré sans sucre. Le slogan publicitaire décrit bien les édulcorants. Des substances qui donnent un goût sucré, mais qui ne sont pas du sucre. Exit les calories, bonjour la douceur, mais peut-être pas sans risque. des chercheuses et chercheurs membres de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle EREN, un groupe français composé de collaborateurs de plusieurs organismes, dont l'Université de Paris, ont publié en décembre dernier une étude qui a fait grand bruit dans le milieu de la nutrition. Elle révèle que consommer des édulcorants sur une base régulière est associé à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, comme les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Les résultats sont issus de l'étude NutriNet Santé, démarrée en 2009 pour mieux évaluer les relations entre la santé et la nutrition. Elle compte maintenant plus de 170 000 volontaires français qui remplissent quelques fois par année des questionnaires poussés sur leur alimentation et l'évolution de leur état de santé. Les petits sachets jaunes, roses ou bleus qui trônent sur les tables des restaurants pour sucrer son café sans culpabilité, mais aussi les additifs de nombreux aliments transformés, allégés, ont retenu l'attention des chercheurs. L'actualité a demandé à Charlotte Debras, première auteure de l'étude, ce que l'équipe a observé. Qu'avez-vous découvert, précisément? Nos analyses ont permis de trouver que chez les grands consommateurs d'édulcorants, les maladies cardiovasculaires sont 10% plus fréquentes que chez ceux qui n'en consomment pas. Plus concrètement, parmi les gens qui n'en consomment pas, un problème cardiovasculaire apparaît chez 314 personnes sur 100 000 chaque année, alors que parmi ceux qui en consomment beaucoup, on note 346 cas pour 100 000 personnes chaque année. Le risque concerne surtout les maladies cérébrovasculaires. L'augmentation est de 30 % pour ces problèmes particuliers. Il existe plusieurs types d'édulcorants. Sont-ils égaux en matière de dangerosité? Les questionnaires que les volontaires remplissent permettent de connaître précisément les aliments consommés, les produits, l'entreprise qui les fabrique, ce qui nous renseigne sur les édulcorants effectivement avalés. Chacun semble lié à des problèmes particuliers. L'aspartame, par exemple, est associé à une hausse de 23 % des événements cérébrovasculaires chez les grands consommateurs, alors que l'association est à peu près nulle pour le sucralose. L'acésulfame de potassium et le sucralose, eux, sont associés à une augmentation de 68 % des maladies coronariennes, toujours chez les grands consommateurs, alors que l'aspartame ne semble pas lié à ces maladies. Qu'entend-on par « grand consommateur » ? Dans notre étude, « grand consommateur » désignait les hommes qui consommaient plus de 18,46 mg d'édulcorants par jour et les femmes en consommant plus de 16,44 mg quotidiennement. En fait, dans ce groupe, la quantité moyenne d'édulcorants consommés était de 77,6 mg par jour. Pour donner une idée de grandeur, une seule petite canette de 250 ml de soda léger contient environ 200 mg d'aspartame. Les faibles consommateurs sont ceux qui consomment des édulcorants sur une base occasionnelle, par exemple une canette de soda léger par semaine. A-t-on une idée du mécanisme par lequel les édulcorants pourraient entraîner des problèmes cardiovasculaires? Nous n'avons que des hypothèses pour le moment. C'est une étude prospective, c'est-à-dire qui commence avec des sujets sains et qui compile les statistiques de problèmes de santé qui apparaissent au fil du temps. Elle porte sur plus de 103 000 personnes suivies de 2009 à 2021, soit pendant 12 ans. Une telle étude est conçue pour repérer des associations, pas pour établir des liens directs de cause à effet. Les mécanismes plausibles pourraient être liés à la prise de poids. En effet, plusieurs études ont indiqué des associations entre la consommation de boissons édulcorées et l'augmentation du surpoids et de l'obésité, parce que les gens, en s'habituant à des aliments au goût très sucré, développent un fort penchant pour le sucre et en mangent plus. Donc, une partie des associations entre édulcorants artificiels et maladies cardiovasculaires observées dans notre étude pourraient être liées au statut pondéral. Mais plusieurs autres pistes sont étudiées comme des mécanismes liés à l'inflammation. Faudrait-il bannir les édulcorants? En tant que scientifique, ce n'est pas notre rôle de dire ce qui doit être banni ou pas. Notre travail est de fournir aux décideurs les données les plus solides possibles. À eux d'en tenir compte à partir de cet éclairage. Les édulcorants sont justement en cours de réévaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, et par d'autres agences de santé publique dans le monde. Notre analyse leur fournit matière à réflexion. Mais une seule étude, aussi valable puisse-t-elle être, ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'elle soit reproduite, que des études équivalentes soient menées ailleurs dans le monde pour voir si elles donnent des résultats similaires. Je sais que des cohortes du même genre sont constituées aux États-Unis, au Canada, au Brésil. D'ici quelques années, on verra si les résultats confortent les nôtres. C'était, pour la santé du cœur, faut-il se passer d'édulcorants? Un texte de Joël Leblanc, paru le 11 avril 2023, dans l'actualité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vucevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Lynn Lamarche à la lecture, Daniel Veillette et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.